Albert Sim, Contes et souvenirs de mon pays, mon petit chien Fidélis. J'avais 10 ans lorsque la mort du curé de notre paroisse, du bon abbé Montardet, me fit héritier et propriétaire de son chien, un petit lévrier noir comme un corbeau, à qui il avait donné le nom latin de Fidélis, fidèle en français, que j'eus soin de lui conserver. Tout d'abord, c'était à la servante de M. Montardet, à Mlle Catherine, que Fidélis avait échu en partage, mais Catherine jugea le cadeau trop gênant pour elle. Un animal qu'il faut nourrir, surveiller, avoir toujours à ses côtés, pour lequel il faut payer des impositions, c'est quel comble. Mais c'est peu de choses, ces impositions. Ah, et puis il faut vous dire, Mlle Victorine, j'ai l'intention de me retirer dans mon village. Que ferais-je ici à Bar maintenant que notre pauvre cher monsieur le curé n'est plus? Je peux pas songer à me replacer, je suis trop vieille. J'ai acheté une petite maison à Hérouville, mon pays natal. Oui, vous me l'avez dit, une très jolie maison, paraît-il. Oh, pas riche, c'est loin d'être un palais. C'est qu'une chaumière, mais située au bon air, tout entourée d'arbres, tapissée de verdure, avec un grand pré par derrière pour mes deux vaches, car j'ai aussi deux vaches. Je vivrai là tranquille avec ma sœur Pélagie, dont le mari vient précisément d'avoir sa retraite. Ah oui, monsieur Berniquet, le facteur rural, le facteur de Soudrup, si je ne me trompe. Oui, c'est cela même, mademoiselle Victorine. Depuis 37 ans qu'il use ses souliers sur les routes et grimpe et descend tous les jours les côtes, et Dieu sait s'il y en a de fameuses dans ce pays-là, il a bien droit de se reposer, lui aussi, n'est-ce pas, donc? Ah oui, certainement, un bien digne homme, votre beau-frère, ajouta ma tante. Il est très aimé dans tous les alentours de Soudrup. Oui, mademoiselle, je doute pas d'être heureuse auprès de ma sœur et de lui. Or, imaginez-vous, il possède justement un chien de garde, un magnifique Terre-Neuve appelé Carabi. Alors, c'est assez d'un. Ben oui, soit, je comprends. Mais, objecta ma tante, ne pourriez-vous confier Fidélis à votre neveu? J'en a-t-elle fait? Oh, il a bien d'autres choses à faire, d'autres chiens à fouetter, c'est le cas de le dire, que de s'occuper de celui-là. Vous savez, mademoiselle Victorine, quel fait, je viens d'entrer en apprentissage chez M. Forgeot, le sculpteur. Oui, je sais, Catherine, mais cela l'empêcherait pas. Oh, puis je dois vous l'avouer, il n'aime pas les chiens, notre Fège. Celui-là en particulier, il le trouve capricieux, paresseux, gourmand. Oh, gourmand! C'était lui-même, mais sans comparaison, un singulier type que mon camarade Elfège Courtelot. Je dis mon camarade, bien qu'il fût mon aîné de plusieurs années. Mais, quoique vigoureux de corps, grand, élancé, bien découplé, Elfège avait comme l'esprit en retard, l'intelligence comprimée et mal éveillée. Il bégayait, en outre, et ce défaut n'était sans doute pas étranger à ses lenteurs de compréhension et de jugement. L'abbé Montardet s'était de son mieux efforcé de remédier à ce vice de prononciation. Il avait conduit Elfège à Paris, il avait fait examiner et traité par des médecins spécialistes, mais sans le moindre résultat. Le neveu de Mademoiselle Catherine bégayait toujours et de plus belle. Ce bégaiement présentait deux particularités curieuses et qui, assure-t-on, sont assez fréquentes chez les personnes affligées de cette infirmité. Fège Courtelot, quand il chantait, il avait une très belle voix, à tel point que les jours de fête, Monsieur le curé le faisait chanter aux orgues, avec le fils de l'organiste, Monsieur Serval, un ex-élève du conservatoire. Cessait de bégayer. Ses hésitations et embarras de langue ne se produisaient que lorsqu'il parlait. Et plus il était ému et pressé de parler, moins il parvenait à s'exprimer, plus sa langue résistait, s'alourdissait et se paralysait. Aussi arrivait-il parfois que Mademoiselle Catherine ou Monsieur le curé, en voyant Elfège ainsi annonné et barguigné, lui suggérait l'idée de chanter pour se faire comprendre. Il entendait alors, sur un air quelconque, ce qu'il avait à dire, et les mots lui sortaient des lèvres, sans aucune difficulté, coulaient de source. Je me souviens qu'un dimanche matin, après la messe, ma grand-mère m'ayant envoyé porter une corbeille de fruits de nos belles reines Claude à monsieur le curé, qui avait justement ce jour-là du monde à déjeuner, je fus témoin d'une scène bien drôle et qui amène encore le rire dans mes yeux quand je me le représente. Occupée aux préparatifs du festin, Catherine allait, venait, se démenait dans sa cuisine et était, comme on dit, dans tous ses états. « Aide-moi donc un peu, rends-toi utile !» criait-elle à Elfège. « Allez, tiens, descends vite à la cave et va tirer le vin. Oui, ma tante !» Il se munit du panier à bouteille et partit au galop. J'allais me retirer dans la crainte très plausible de gêner Catherine, quand survint M. l'abbé Hériot, le premier vicaire, qui m'arrêta pour me demander des nouvelles de ma grand-mère. Il était en train de me faire son éloge, de me parler de sa proverbiale charité, de son dévouement envers tous les malheureux de la paroisse, lorsque soudain nous vîmes accourir Elfège, tout essoufflé, haletant, bouleversé. Ma tante, chante donc, Nigaud. Chante, puisque tu ne peux pas parler, interrompit Catherine avec impatience. Immédiatement, Elfège obéit, et voici ce que nous entendîmes fredonner sur l'air de « il pleut, bergère ». Le robinet du tonneau vient de se casser, ma tante, le vin coule dans la cave et se répand partout. Catherine se débarrassa donc des fidélis en l'offrant à ma tante Victorine, qui, à défaut d'Elfège, l'accepta sans se faire prier davantage. Elle aurait eu trop gros cœur de voir errer à travers les rues de notre ville de Bar, abandonnée de tous, sans pâté et sans niche, le chien de notre défunt pasteur. Ma tante Toto demeurait ainsi que moi chez ma grand-mère, dans notre vieille maison de la rue du Tribel, proche du chevet de l'église Saint-Étienne, et un soir d'avril, en revenant de la prière, elle nous arriva, suivie tant bien que mal de M. Fidélis. « Je pensais à toi, » m'annonça-t-elle, « c'est pour toi, ce petit chien-là. » À l'opposé d'Elfège, je raffolais des chiens, et ce fut par un cri de joie que je répondis à ma tante, « Oh, quel bonheur ! Moi qui en désirais un depuis si longtemps. Oh, merci, merci, Toto. Oui, mais c'est à une condition. Laquelle ? Ben, nous n'aurons pas à nous occuper de cet animal. Toi seul en auras la garde, seras chargé de le promener, de le soigner. Et je te promets qu'il le sera soigné. Tu verras, Toto, tu verras. » J'étais dans le ravissement, et sur le champ, je m'appliquais à me montrer digne de la preuve de confiance qui m'était donnée à remplir de mon mieux mon rôle de protecteur et de maître. Malheureusement, en dépit de son nom, Fidélis était bien le moins constant, le moins reconnaissant, le plus infidèle et le plus ingrat de tous les lévriers, voire de tous les représentants passés et actuels de la race canine. Ainsi que l'avait remarqué et déclaré Elfège Courtelot, il n'obéissait qu'à un seul penchant, la gourmandise. Comme nous ne menions pas grand train chez nous, qui vivions surtout de laitage, d'œufs et de légumes, et que la viande était son régal à lui, il ne tarda pas à connaître les bonnes maisons du quartier, celles où l'on faisait grâce et copieuse chère, et à s'y faufiler et à s'y implanter. Peu à peu, petit à petit, il nous délaissa de la sorte, s'installa chez nos voisins, les Marsons ou les Baudelots, et j'avais beau le rappeler, beau crier, beau faire, il m'échappait toujours. Mais fais donc attention à Fidélis, même à tante, c'est pas ma faute. Il est défendu de laisser les chiens errer dans les rues en ce moment. Il y en a d'enragés. Et si le nôtre, enfin le tien, est rencontré par la police, il risque fort d'être conduit à la fourrière. C'est ce qui finit par lui advenir un jour d'été. Frédéric de Marson, qui achevait alors ses classes au lycée, ayant eu vent de la chose, s'empressa d'aller réclamer M. Fidélis et le ramena à ma grand-mère. Mais elle refusa de le reprendre, alléguant ma continuelle négligence et mon incurie notoire. Mais puisque tu as la complaisance de te déranger tout exprès pour ce chien, je t'en fais cadeau, dit-elle à Frédéric. Il est d'ailleurs continuellement chez vous, bien plus à vous qu'à moi. Oui, c'est vrai, madame Curel. Eh bien, garde-le tout à fait, Fredo. Mais avant de se séparer de nous, M. Fidélis fut le héros d'une aventure que je veux vous conter. Mon infidèle Fidélis se montrait très familier avec tout le monde. Volontiers, il allait flairer les jambes des passants, les suivait, les cajolait, comme s'il eût attendu d'eux quelque aubaine. Apercevait-il une porte ouverte, vite il entrait pour voir, sans doute, s'il n'y avait rien à croquer, lécher ou ronger par là. À l'extrémité de notre rue du Tribel, près de la terrasse dite des Grangettes, habitait à cette époque un officier en retraite, M. le commandant Péchoin, qui vivait très retiré et sortait à peine. Je me souviens cependant de l'avoir deux ou trois fois rencontré, et je me rappelle encore ses longues redingotes noires, à la boutonnière ornée d'un large ruban rouge, et surtout sa haute taille, une taille exceptionnelle et vraiment gigantesque. M. Péchoin avait un ami, un ancien compagnon d'armes, le commandant Berlureau, qui, étant devenu sourd, avait lui aussi pris sa retraite et s'était installé dans une propriété qu'il possédait aux environs de Nancy. Il y avait 5 ans que ces deux braves ne s'étaient vus quand une affaire de succession appela M. Berlureau à Paris. Il écrivit sur le champ à son ami Péchoin qu'il profita de ce voyage pour s'arrêter à Bar-le-Duc entre deux trains. « Le temps de te serrer la main, mon bon vieux !» M. Péchoin le répondit aussitôt que cela ne suffisait pas et qu'on renouvellerait bien mieux connaissance à table. « Mais tu arrives justement à 11 heures, l'heure du déjeuner. Je compte sur toi sans faute. » Au jour fixé, à l'heure dite, le commandant Berlureau arrivait à Bar et se dirigeait vers la rue du Tribel et les Grangettes, au sommet de la ville haute. Il venait d'atteindre la demeure de M. Péchoin et allait tirer le pied de biche de la sonnette, lorsque mon petit chien Fidélis, qui rôdait dans ses parages, s'approcha gentiment de ce visiteur en sautillant, se courba et dodelonnant de la tête comme pour le saluer et lui faire bon accueil. M. Berlureau répondit à ses avances par quelques caresses. « Oh, le bon toutou, comme il est gentil !» Et ils étaient déjà tous les deux dans les meilleurs termes quand Fanchette, la servante de M. Péchoin, accourut ouvrir la porte. Fidélis, selon la coutume de ses pareils, eut soin d'entrer le premier, et le commandant Berlureau ne douta pas un seul instant que ce chien n'appartint à l'ami Péchoin. Celui-ci, de son côté, ainsi que sa domestique, ayant vu M. Berlureau arriver en compagnie de ce petit lévrier noir, furent convaincus qu'il en était le maître. Quant à Fidélis, comme il flairait partout autour de lui de tièdes et délicieuses émanations, les irrésistibles fumées d'un plantureux festin, oh, il n'avait garde de demander à s'en aller. Au contraire, il attendait avec la plus vive impatience le moment de prendre part au régal. Il arriva, ce bienheureux moment, et voilà mon Fidélis assis sur ses pattes de derrière, tout près de la table, au pied des deux convives, et les regardant tour à tour d'un œil avide, anxieux, suppliant. M. Berlioz, le premier, se laissa attendrir. « Bon, cela fera plaisir à Péchouin, pensa-t-il. Cela lui prouvera que je m'intéresse à son chien. Il a l'air de tant l'aimer. » Et il passa, Fidélis, l'os de sa côtelette. Un instant après, Fidélis, ayant croqué et expédié cet os, reprit sa place et renouvela ses muettes mais éloquentes supplications. « Tiens, mon toutou, » dit M. Péchouin, en lui présentant à son tour les restes de sa côtelette. Ben, « cela fera plaisir à Berlureau, » ajouta-t-il en lui-même. « Il faut qu'il soit positivement entiché de son chien pour l'emmener ainsi avec lui en voyage et le traîner partout. C'est cependant bien commun, comment dans le chemin de fer ?» Et aux débris de côtelettes succédèrent des os de poulet, des morceaux de pain trempés dans la sauce, voire des languettes de viande, quantité de succulents reliefs dont l'insatiable et fortuné Fidélis se délectait, se pourléchait. Jamais il ne s'était trouvé à pareille fête. À mesure qu'il se voyait ainsi bien traité, il s'enhardissait, devenait plus quémandeur et plus entreprenant. Oh, il ne se bornait plus à implorer du regard ses deux maîtres. Il allait de l'un à l'autre, du bout de sa patte leur grattait le mollet, ou bien se dressait contre leurs jambes, s'appuyait sur leurs genoux, afin de se rappeler sans relâche à leurs généreux et compatissants souvenirs. C'est ce qui le perdit. Qui veut trop avoir. Allô, à bas, à bas! Finit par crier le commandant Péchouin. Et comme Fidélis ne tenait pas compte de l'injonction et continuait à se hausser et à manœuvrer la patte, à bas, reprit le commandant. Eh ben, il est bien familier, ton chien. Tu dis? Demanda M. Berlureau, qui avait toujours l'oreille dure. Je dis que tu as bien mal élevé ton chien. « Quel chien ? J'en ai pas !» riposta l'ami Berlureau en écarquillant les yeux. « Eh bien, et celui-ci ? » fit M. Péchouin en indiquant Fidélis. « Mais c'est le tien ! Mais non, il n'est pas à moi, il est entré avec toi, je l'ai bien vu. Comment, il t'appartient pas ? Oh non, non, pas du tout, je croyais qu'il était à toi. » Sans plus discourir, M. Péchouin se leva, allongea un vigoureux coup de pied à cet intrus de Fidélis et le chassa à coups de serviette hors de la maison. « Allez-vous tous à la porte s'introduire comme ça, t'es un peu violent. Effrontez, vienne bête, allons dehors, oust !» Tout en rampant et en s'enfuyant, Fidélis dut se dire qu'on ne peut jamais se fier aux hommes, qu'il change d'opinion et de manière vraiment sans rime ni raison, tournant à tout vent comme des girouettes. Mais qu'importe, il était repu à éclater et avait merveilleusement déjeuné.